Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, bienvenue dans Nanar Ludique, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur et je suis avec un nouveau duo pour ce Nanar Ludique. J'ai l'impression que chaque fois on fait des nouveaux duos pour, en ce moment. Et donc la première personne qui est avec moi, c'est Benoît FX. Salut Benoît FX.
Salut le Pionfesseur.
Alors toi, ce n'est pas ton premier Nanar Ludique, tu étais déjà là pour... c'était pour Chris Crash ? Non, je ne sais plus.
Non, comment il s'appelait ? C'était le magicien, là.
Ah oui, Crop Circle.
Crop Circle. Oui, écoute, je m'en souviens encore très bien. C'était un très bon moment.
C'est vrai.
Du coup, hâte de voir ce que tu vas nous proposer aujourd'hui.
Et la troisième personne qui est avec nous, c'est quelqu'un qui n'a jamais participé à Nanar Ludique jusque-là. C'est Flavien. Salut Flavien.
Salut à tous les deux. Salut aux auditeurs et auditrices. Ouais, bah écoute, moi je suis un auditeur fidèle de Nanar Ludique. Effectivement, l'émission sur Crop Circles était très rigolote. Il y a plusieurs jeux qui s'appellent Crop Circles, cependant. Mais je pense qu'ils sont tous nuls.
Ça, je sais pas. Et d'ailleurs, l'émission sur Crop Circle, à un moment, elle s'est retrouvée sur un site qui référence les podcasts à propos de Crop Circle.
Oh, énorme.
Incroyable.
Ah, ça, c'est un bot qui cherche sur les mots-clés.
Oui, mais bon, on se doute bien de quel genre de public va aller voir ce jeu.
ce genre de podcast.
Ouais, voilà, ce genre site. De site.
Sûr qu'on va parler de Ourzoupe. Ouais. Allez, c'est bon, vous pouvez passer. Il faut le dire une fois par émission.
ouais, Flavien, tu dis que tu es un auditeur fidèle, donc j'imagine que tu connais le principe de l'émission, mais je vais quand même le rappeler.
Je sais qu'il ne faut pas ouvrir ma page BGG, c'est interdit, tout est fermé. Ouais. J'ai demandé à mon pare-feu de bloquer Internet, sauf Discord.
c'est pour ça que Mad a pris un carton rouge la dernière fois et qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, le principe, c'est qu'on va parler d'un nanar, c'est-à-dire un jeu de société qui est soit très nul, soit très bizarre, et très souvent les deux, en fait, à tel point que ça en devient rigolo, et on peut en faire une émission d'une heure et demie où on en parle.
Ouais, parce que des jeux très nuls, il y en a plein. Mais il y en a peu qui deviennent des nanars.
Ouais, en fait, tu sais, c'est dans le cercle de l'esthétique, je pense que... Tu vois, c'est un cercle, c'est pas une échelle. C'est-à-dire que quand t'arrives tout en bas, bah en fait, tu remontes tout en haut. Tu vois, quand c'est tellement nul que ça en devient génial.
Ça s'oppose à la conception linéaire du temps.
Mais est-ce que tu pourras trouver plus bizarre que Crop Circle ? Je ne suis pas sûr.
Ah bah on verra. Donc, avant de commencer l'émission, on va remercier, comme d'habitude, les donateurs et donatrices. Donc, on remercie Benjib, Siol, Alès, El Piero 50, Olfen W, Grovast, Yann Loïc, Sam Chakit, Yann Le Proto, Raduris, Beru, Philippe KFDJ, Olive Link, La Famille Guyot, Max Rioc, Caducé, Ricky et Gamt. Merci pour vos dons. On remercie également la Caverne du Gobelin, qui est notre partenaire. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Il y en a de plus en plus. Oui. Mais c'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com. Et donc, toujours avant de commencer l'émission, vous savez que j'aime bien faire un retour sur les commentaires de l'émission précédente. Alors, Flavien, tu te souviens, c'était quoi l'émission précédente.
Il y a eu Chris Crash, mais c'était pas le dernier.
Non, c'était pas le dernier.
Age of Soccer, non ?
Ah ouais,
oui,
ça avait l'air
tout
drôle.
À fait.
Ça avait
Age of Soccer. Vous rappelez, c'était un jeu de football un peu mythologique comme ça.
Ah ouais.
Et donc, bah, malheureusement, alors tout le monde avait demandé à corps et à cri qu'il y ait le duo Mad Cargo, mais malgré ça, il y a eu que 3 commentaires. Je suis triste. Seulement 3 commentaires. Donc j'espère que vous ferez mieux cette fois-là. Ou alors peut-être que on avait tout dit dans cette émission, je ne sais pas.
Sûrement.
Et en plus, il y a un des commentaires, c'est Mad, qui regrettait que Cargo n'avait pas mis son petit schéma explicatif des règles du hors-jeu.
Ah, ouais.
Comme on lui avait demandé.
Il y a des subtilités quand même dans le hors-jeu. Hein. Les règles de base, tout le monde pense les connaître, et en général, les gens les connaissent. Mais il y a des subtilités à la con, qui arrivent quasiment jamais, hein, les exceptions idiotes de game design, mais qui existent.
On a ça aussi au Mahjong. Hein.
Ouais.
Ensuite, on a Delotte qui a cité, parce qu'à la fin, on citait un peu nos jeux de football préférés, et lui, il a parlé de Blood Bowl Team Manager. Mais comme il a dit lui-même, c'est du football pour les geeks américains, qu'il a écrit en majuscule. Si vous vous souvenez de l'épisode, il y avait une petite blague là-dessus.
Moi, j'ai une question.
Oui, vas-y.
Vous étiez plutôt PES ou FIFA? Vous jouiez à PES ou FIFA, hein, qui n'est pas Age of Soccer.
Alors moi j'avais un jeu qui, sur PS1 qui s'appelait Coupe du Monde 90.
Ah, tu l'avais?
Ah, j'avais, je l'avais, sur, j'avais sur la, 60, la Nintendo 64.
Avec Footix.
Ouais.
Avec da, 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 da.
Footix, ouais.
Da, 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 da. Pour l'anecdote, mon oncle faisait une voix dedans.
C'est vrai?
Mais
ouais, c'est vrai.
Après, la vérité, c'est que j'ai joué à la fois à FIFA et à PES. Donc,
Selon ce qui était chez les potes, quoi.
Ouais, oui, voilà, c'était un peu ça. J'ai pas été, j'ai pas été team l'un ou l'autre.
Ouais, tu faisais pas partie de ces guerres de chapelle.
Ouais, c'est ça. Je joue à tout, moi. Et un dernier commentaire aussi, c'est Volet. Alors, il a écrit ça genre comme un veau, l'animal, et lait, comme du lait, quoi. Il confirme que, en fait, il y a plein de manières de jouer au volleyball, parce qu'on se posait un petit peu la question.
Ouais.
Et effectivement, il y a du 2v2, ça c'est un peu la règle officielle.
Mmh. Le 2v2, c'est la règle du beach
ouais,
volley.
Du beach volley.
Bah, apparemment, il disait que c'était en tournoi, ça se joue en 2v2.
Non, c'est faux, hein, regardez
Mgapet. Ah bon, c'est faux.
Le beach volley, ça se joue en 2v2, ouais. Mais ouais, le volley, ils sont au 7, je crois, non?
Non, il y a soit du 4-4, j'ai fait quelques années de volley, soit du 6-6, c'est le 6-6, ah, le 6, c'est plus fréquent. Et où t'as... Après, là aussi, tu as des règles à la con au niveau de la rotation, parce que le passeur peut être fixe et tout, bref.
Mais justement, l'important, c'est qu'il a dit qu'il y avait du 4-4 et que donc, ça aurait marché thématiquement pour Age of Soccer, vu qu'on a des équipes de 4.
C'est vrai.
Mais malheureusement, comme il disait, ça aurait été probablement moins impactant en termes de thématique.
Thématiquement, ouais.
Sur le Discord, il y a aussi, je vous invite vraiment à aller voir, il y a Fred2674 qui a partagé des images d'un bonanar qu'il a chez lui. Qui s'appelle Pro Cup sur le club de Lille. Donc, a priori, il y a des Pro Cup pour chaque club de foot qui sont en Ligue 1, je crois.
Et donc, on ne connaît pas l'auteur, mais c'est un travail en sous-main de Bruno Catala. C'est pas trop drôle.
Enfin, y a tout qui est parfait, genre forme ton équipe de 3 joueurs, tu lances des dés pour résoudre les matchs et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et pareil, il y a Gaume qui a cité Footmania en beau nanar. Donc je pense qu'il y a vraiment une sous-branche des nanars de foot, quoi.
Bah, c'est un sport très populaire, donc les gens, tu vois...
Il doit y avoir un flopé de jeu.
Pour chacun des clubs aussi.
Ouais.
Bah c'est clair. Et voilà, pour le retour sur les commentaires. Donc écoutez, les amis, je vous propose qu'on démarre l'émission concrètement.
Let's go.
Alors, vous connaissez la tradition, dans Nanar Ludique, on commence tout d'abord par regarder ensemble le titre du jeu et vous allez essayer de deviner, de sentir qu'est-ce que ça peut être en termes de soit de mécanique, soit de thématique, comme vous voulez. Donc, le jeu d'aujourd'hui s'appelle, c'est un titre en anglais, The Quest for Shangri-La.
Hmm.
Ça peut se traduire
Mais
par...
C'est un jeu de Léo Colovini. C'est pas The Bridges of Shangri-La.
Non. Ce qui peut se traduire donc par la quête de Shangri-La. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est Shangri-La déjà?
Oui, c'est aussi Xanadu. C'est un
truc tibétain, non? Enfin, c'est dans les...
Népalais.
Ouais.
Népalais c'est... ou tibétain, ouais, je sais plus.
Alors, en fait, Shangri-La, c'est une ville fictive tibétaine qui originellement vient d'un roman qui s'appelait Les Horizons Perdus de James Hilton. Mais en fait, c'est un, disons que c'est un mythe qui a été repris dans
l'Eldorado,
d'autres.
Ouais, aussi.
Oui, voilà, comme l'Eldorado. Tu vois, c'est un truc qui a été repris ensuite dans d'autres œuvres de fiction depuis.
Une œuvre incroyable, c'est, tu sais, Picsou, les Picsou de Don Rosa. Il y a Tralala, notamment, qui s'inspire de Shangri-La. Il y a plusieurs histoires de Picsou à Tralala, qui est aussi Xanadu. Et avec des capsules, c'est rigolo parce que pour l'anecdote, c'est il y a des histoires de, bah en gros, c'est une vallée perdue et calme et où la paix règne. Et Picsou évidemment va ramener le capitalisme là-dedans en fait parce qu'il a besoin de calmants. Donc en fait, on l'invite à aller faire ça parce que la pression de l'argent. Et en fait, à un moment, il y a une capsule d'un de ces médicaments qui arrive et ça devient une monnaie et ben ça ruine complètement la vallée de Xanadu. Voilà.
Ok.
Incroyable.
C'est beau. Donc écoutez les gars, je vais vous proposer de deviner donc de quoi ça peut parler The Quest for Shangri-La. On va commencer par Flavien, tiens, tu avais la parole, et puis tu es un peu le nouveau dans l'émission.
Ouais, c'est le bisou, le bisou aussi. Mais... donc The Quest for Shangri-La, écoute, moi je pense que au lieu que ce soit un truc genre RPG qu'on pourrait penser avec le mot quest, évidemment,
ouais.
En fait, on est dans un truc un peu plus spirituel, genre un truc qui aurait pu être développé par un coach en développement personnel, où en fait, okay, le but, c'est d'atteindre la paix intérieure. Donc, parce que le Shangri-La, tu vois, le Tibet et tout, le côté un peu vallée perdue, un peu représentante du zen. Ouais, ce qu'on cherche, c'est donc cet état de plénitude et de transcendance qui peut exister au Shangri-La. Et donc, sans doute, un jeu... un peu genre comme le monde des fous, des trucs comme ça, ou feelings, tu vois, et où en fait presque méditatif, et où petit à petit tu gagnes des points un peu comme dans chakra, des points de zénitude, et où le but c'est d'atteindre la transcendance.
Ok, voilà. Ouais, ça truc marche. Ça marche. Et toi, Beno et Fix, est-ce que ça t'inspire autre chose?
Ouais, bah moi je vois un bon gros Améritrash, où le but c'est d'aller justement conquérir le Tibet, tu vois, genre...
Ah ouais, ouais.
Des Chinois qui continuent de...
Un jeu chinois, un Améritrash chinois.
Ouais, un Améritrash chinois où les troupes chinoises veulent toujours contrôler le Tibet, et Tibet free, tout ça. Quoi.
C'est d'ailleurs okay, un jeu édité par le gouvernement chinois.
C'est ça.
Ça pourrait... Alors normalement, si c'est édité en Chine, dans les œuvres chinoises, on n'a pas le droit de parler de la Chine. Donc...
Ah ouais, pardon. Bah alors c'est comme tous les mangas ou les romans japonais où c'est un, tu reconnais le Japon mais c'est dans une dystopie fictive.
Ah oui oui.
Une une oh mince. Ouais non mais tu sais c'est avec un dictateur, une dictature
ah, une dystopie.
Une dictature qui n'en dit pas le nom et tu sens que c'est le Japon mais c'est pas vraiment le Japon.
Tu veux dire comme la Chine pour de vrai.
Comme dans Battle Royale ou ce genre de truc, tu vois.
Ok.
Ou qui gagne.
Ouais, je vois. Ça marche. Eh bien, écoutez, je pense que vous êtes encore assez loin du compte. Alors, normalement, à ce moment-là, je commence à présenter le jeu et tout ça. Mais en fait, cette émission, elle est un petit peu spéciale parce que on va révéler un tout petit peu les coulisses. Vous savez, généralement, quand on fait un nanar ludique sur notre petit moyen de communication interne à l'équipe, moi je dis, bah tiens, qui c'est qui veut faire le prochain nanar? Puis il y a des gens qui se proposent. Et là, j'ai demandé expressément à ce que ça soit vous deux, Flavien. Alors, et Beno et Fix.
Vous vous doutez que c'est parce qu'on fait ensemble autour du jeu. Peut-être. Moi, en tout cas l'hypothèse que j'ai émise quand tu nous as proposé.
C'est exactement ça, tu as bien deviné, c'est parce que vous faites autour du jeu. Et qu'aujourd'hui, on va peut-être parler plus de quelque chose autour du jeu. Et en particulier, on va parler de musique aujourd'hui.
Ah, donc, on va parler de Ravi Shankar, allez.
Bah écoutez, je vous propose qu'on écoute un petit extrait tout de suite. Alors, est-ce que vous avez reconnu ça, les amis?
Bah, niveau sonorité, je dirais que c'est du truc des années 90.
80, ouais, c'est du hip-hop 80-90.
Ou bien, c'est des gens qui essayent aujourd'hui de faire du hip-hop des années 90, parce que la prod et la voix, notamment... je sais pas, au niveau de la voix, j'ai toujours du mal à reconnaître, à part un Kendrick ou un Danny Brown, mais c'était clairement pas eux. Je sais pas, après, si on part dans des trucs un peu asiatiques, mais le sample, là, de la Lambada, un peu... c'est un peu trop cheapos pour que ce soit du Wu-Tang, mais
non, c'est pas Wu-Tang. Non, je pense que c'est avant, enfin je trouve dans le style c'est plus à la Public Enemy, c'est plus fin 80 que 90, j'ai l'impression. Ouais.
On est bien dans les années 90.
Ok. Mmh.
Okay.
Alors c'est un groupe, je sais pas si vous connaissez, c'est Insane Clown Posse.
Ah non, non, je connais pas.
Vous avez jamais entendu parler?
Insane Clown Posse.
Non.
Ok. C'est vraiment assez connu, hein, les Insane Clown Posse. Donc en français, on pourrait dire que c'est l'équipe des clowns tarés, quoi.
Ok.
Des clowns fous. Et en fait, c'est un groupe qui faisait partie d'un mouvement qui s'appelait l'Aurorecore. Ça, je pense que vous connaissez.
Mmh. Ouais, ouais.
Donc c'est un style de hip-hop qui reprenait des esthétiques.
Ah, Posse, ok. Moi, j'avais entendu Posse. Et c'était Posse, tu vois.
Pas aussi. qui reprend un peu des esthétiques, vous savez, de films d'horreur, de trucs un peu comme ça.
Ouais.
Et ouais, les eux, plus en connus, fait... je pense, c'est Grave Digaz dans ce style-là.
Ouais.
Saucix Mafia aussi, ouais.
Qui a pas mal inspiré Stupéflip en France.
c'est ça, tout à fait. Et pour le coup, eux, en fait, ils ont tendance à se peinturlurer la gueule, justement, comme des clowns. Mais tu voyais, c'est un peu des clowns diaboliques, quoi. Mm. Et ils sont tellement connus, en fait, aux États-Unis, qu'il y a toute une communauté autour de ce groupe qui s'appelle les Juggalos.
Ok.
Et donc, les Juggalos, ils sont pareils, ils se peinturlurent la gueule et tout. Et ils ont tendance à faire des grandes conventions chaque année de Juggalos, parce que vous savez, aux États-Unis, dès qu'il y a une communauté, il y a une convention. Ouais. Et ça a vraiment beaucoup de succès, et donc ils se réunissent beaucoup. Mais il y a vraiment une sorte de, comment dire, de délire où, quand on est vraiment fan de Insane Clown Posse, ça devient un peu ta vie, quoi, tu vois.
Un peu comme les gens qui aiment Proxy, je crois. Quand la ProxyCon, moi, je n'attends que ça.
Et du coup, en termes d'esthétique, bah, ils sont beaucoup sur les trucs justement de cirque, de trucs comme ça. Et en même temps, il y a toujours un côté un peu soit humoristique, soit très dark en fait. C'est un mélange un peu particulier. Ouais. Et donc, il y a des trucs justement un peu mystico-bizarres dans le truc. Donc voilà. Et du coup, The Quest for Shangri-La, c'est un jeu... qui va parler du Insane Clown Posse, du moins de leur univers, en fait.
Ah oui,
okay.
Carrément.
Donc, je vais vous faire la fiche signalétique maintenant que j'ai dit ça. Donc, c'est un jeu de Nathan Endron et de Robert Bruce. Alors, Robert Bruce, on en reparlera, il se fait appeler aussi Jumpsteady.
Ok, c'est les membres du groupe, ouais.
Non, ce ne sont pas les membres de Insane Clown Posse. Et c'est illustré par Nathan Endron, donc un des deux auteurs. Et c'est édité par Psychopathic Records, qui est le label de Insane Clown Posse.
Ok.
Et c'est sorti en 2007, donc c'est déjà assez loin dans leur carrière. Hein. Comme dit, eux, ils ont commencé dans les années 90.
Okay.
Mais ils font encore de la musique aujourd'hui, hein. c'est un groupe qui marche toujours. Et donc pareil, je ne vais pas vous expliquer vaguement le principe du jeu tout de suite, je vais vous faire les explications de règles au fur et à mesure. Et on va jouer à un petit jeu ensemble. Le but, c'est de deviner de quel jeu ce jeu est une repompe.
Ok.
Donc, dès que vous avez trouvé, vous avez gagné. Mais les auditeurs et auditrices peuvent s'amuser aussi à jouer à ça.
C'est un jeu de 2007, donc c'est forcément une repompe d'un jeu antérieur à 2007, ok.
Forcément. Alors, donc, je vais déjà vous lire le pitch du... Vous savez, qui est écrit au début de la règle. Je vous l'ai traduit. Je vous ai traduit pas mal de choses. Alors... Une ombre sinistre et mystérieuse s'est abattue sur Shangri-La, mettant en péril son existence propre. Vous jouez le rôle d'un personnage issu du carnaval sombre ou du vide inférieur.
Stop, qui... stop, ouais. C'est les loups-garous.
Non, c'est pas les loups-garous.
Mafia.
Donc un personnage issu du carnaval sombre ou du vide inférieur qui part en quête pour atteindre Shangri-La au centre du plateau. Les joueurs et joueuses vont voyager à travers Détroit, donc la ville de Détroit, le vide inférieur et le carnaval sombre sur le plateau. Pendant que vous explorerez ces régions, vous affrontez de nombreux monstres, collecterez de l'argent sonnant et trébuchant, acquérirez de précieux objets et serez rejoints par des potes, devenant plus puissants et mieux équipés afin d'affronter la chose inconnue qui vous attendra à Shangri-La.
C'est HeroQuest.
Non, ce n'est pas HeroQuest.
Descent, mais Descent, tu auras un Overlord.
Non plus. Si vous jouez un personnage du carnaval sombre, votre objectif est de la sauver de la destruction, la ville de Shangri-La.
Ouais. Tandis les chevaliers de la table ronde.
Non. Tandis que les personnages du vide inférieur souhaitent conquérir la ville pour leurs propres intérêts.
Résistance.
Non, Résistance est sorti après, je crois, en plus.
Allez-vous survivre et devenir le champion ou le conquérant de Shangri-La? Voilà, ça, c'est le pitch du...
C'est en opposition, il y a deux équipes. Alors, sachant que c'est peut-être un jeu à deux uniquement.
Non, il n'y a même pas deux équipes, en vrai.
Ah, ok, d'accord. Okay, parce
ça c'est juste
vraiment...
du lore. Ah. C'est juste du lore, tout ça. Et en fait, ça n'a aucune importance, le fait que vous soyez un personnage du carnaval sombre ou...
Ok. D'accord.
Ou du vide inférieur. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Hein, mais... Donc, en début de partie, il y a le plateau qui est mis au milieu de la table. Et c'est un plateau sur lequel va y avoir des cases un petit peu à la manière de, du Monopoly. Vous imaginez, il y a une piste qui fait le tour du plateau, comme ça, sur un plateau carré. Et à l'intérieur de la piste, il y a, j'ai envie de dire de manière concentrique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il y a une deuxième piste. Et à l'intérieur de cette piste, il y a une troisième piste, comme ça.
Ouais, c'est
et
un en peu gros, comme quand tu fais des, enfin, quand tu laisses un, je lance un caillou dans l'eau, quoi. Sauf que là, c'est carré. Et que ça fait, tu sais, des cercles, justement.
Quoi. Ça fait un crop circle, quoi.
Ouais, c'est ça. Un crop circle. Mais l'idée, c'est que, voilà, t'as une piste extérieure qui représente, du coup, la ville de Détroit.
Ok.
Au milieu, enfin, entre les deux, comme ça, il y a le...
différents sacs de l'enfer, en fait.
Il y a le vide inférieur, on va dire. Ensuite, il y a le, dark, le carnaval sombre, encore à l'intérieur. Et la tout au centre, il y a Shangri-La qui est une seule case au milieu de tout ça.
Ok. C'est le Trivial Pursuit.
Non, c'est pas le Trivial Pursuit. Trivial Pursuit, il n'y a pas plusieurs pistes à l'intérieur.
Il y a un cercle extérieur et puis il y a des échelles qui relient. Ouais.
C'est ça. Et donc, en début de partie, vous allez recevoir un personnage aléatoire qui vous représente. Alors, on parlera du contenu plus tard, je vous lirai des noms de personnages plus tard, ok. Donc, vous recevez un personnage aléatoire, et donc les personnages, ils ont deux caractéristiques, on va dire. Ils ont une barre de points de vie, généralement on a entre 3 et 5 points de vie, et une barre de bonus de combat, qui, pareil, a une valeur au départ, genre 1 ou 2, et plus tard vous allez pouvoir augmenter cette barre de combat. C'est un peu comme dans, si vous avez joué à... Betrayal at the House on the Hill.
Non, jamais.
C'est genre, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des petits clips comme ça qui se mettent sur le côté votre truc en carton comme ça et que vous pouvez déplacer comme ça.
Dans Zombicide aussi, pour citer un exemple plus connu, tu sais, tu peux le faire, mais sauf que c'est en haut de la planche que tu poses.
Ouais, mais là, c'est juste que les petits clips, ils ressemblent exactement à ceux de Betrayal, donc c'est pour ça que j'ai cité ça. Et donc, voilà, vous commencez quelque part sur le plateau qui dépend de votre personnage. En fait, votre personnage indique votre lieu de départ et vos objets et votre thune de départ. Je vais appeler ça thune. Sachant que dans le jeu, il y a de la thune, vous savez, en billets, le truc bien chiant, là.
Mm-hmm. Ok.
Et sur les billets, il y a les gueules des deux membres du Insane Clown Posse.
D'accord.
À votre tour, du coup, vous lancez un dé à 6 faces. Et vous allez avancer de autant de cases, mais attention, il y a quand même un choix. Vous pouvez choisir dans quel sens vous allez tourner.
Sur c'est la mieux piste. Qu'un jeu de loi, quoi.
C'est un tout petit peu mieux qu'un jeu de loi. Et donc, de base, bah, vous tournez sur la piste de Détroit, mais ensuite, vous allez pouvoir rentrer. Il y a des passages qui permettent d'aller vers les pistes plus centrales, vous voyez. Faut juste avoir déjà assez de force pour pouvoir passer ces endroits-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour passer la première barrière, il faut avoir monté son bonus de combat à 6. Pour passer la deuxième barrière, il faut monter son bonus de combat à 10. Et pour aller à Shangri-La, il faut monter son bonus de combat à 15. Voilà.
Ouais, ok.
Ok.
Et pareil, les barrières, alors c'est assez drôle parce qu'elles ont des noms. Donc pour passer de Détroit au vide inférieur d'abord... C'est l'oléoduc, je vais le traduire comme ça. C'est le pipeline hein, en anglais, qui relie les égouts de Détroit au tunnel du vide inférieur. Mmh. Ensuite, on a le portail qui mène du vide inférieur où il y a le palais du sorcier. La case du palais du sorcier est reliée à la maison au miroir qui se trouve dans le carnaval sombre.
Ok, c'est des cases spécifiques qui sont reliées. Tu peux pas traverser où tu veux, quoi.
Tu
dois atteindre des cases spécifiques.
Et il faut que tu passes par l'oléoduc, le portail. Et pour Shangri-La, c'est un pont. Ils appellent ça le pont. Tu vois,
bah, qui le mène pont de directement. Hein.
Mène à Shangri-La, ouais, c'est un peu dans l'esthétique.
Ouais.
Et d'ailleurs, en fait, on voit bien que ces pistes sont différentes parce qu'il y a un truc qui les sépare tout au long du plateau, comme ça. Vous imaginez, il y a la piste extérieure. À l'intérieur, il y a une autre piste. Et entre les deux, il y a une grosse marque épaisse qui les sépare. Et cette marque-là, dans le lore, elles ont un nom. Donc, par exemple, il y a la rivière de sang qui sépare Détroit du vide inférieur. Il y a le mur des os, hein, des os, quoi, entre le vide inférieur et le carnaval sombre. Et il y a le cosmos qui sépare le vide inférieur de Shangri-La.
Ok.
C'est juste pour vous donner une idée un peu de l'ambiance.
Du plateau et de l'ambiance.
Et donc, bah, quand vous allez vous déplacer, vous allez atterrir sur une case et la case vous indique ce que vous faites, qui, la plupart de temps, du temps, sera de piocher des cartes. Alors, il y a plusieurs types de cartes, mais la carte que vous allez le plus souvent piocher, ce sera des cartes actions, qui dépendent du lieu où vous êtes. Donc, il y a des cartes actions pour Détroit, d'autres pour le vide inférieur et d'autres pour le carnaval sombre. Et ensuite, du coup, la carte, ça peut être plusieurs trucs. Donc, ça peut être soit de l'argent, vous gagnez de l'argent tout de suite. Soit ça peut être un événement, vous faites ce qu'il y a écrit dessus et vous le défaussez. Soit ça peut être un pote. Donc le pote, il vient devant vous et vous le gardez avec vous jusqu'à la fin de la partie. Soit ça peut être des objets, vous les mettez devant vous et vous les gardez jusqu'à la fin de la partie. Par contre, les objets, il y a une différence, c'est que vous pouvez en avoir que 6. Donc si vous en avez plus de 6, vous devez défausser.
Et ça qui te donne de la force, du coup.
Ouais, c'est ça. Ça peut augmenter ta force ou ça peut faire des bonus ou je sais pas quoi. Et enfin, tu as les monstres. Et donc, les monstres, eux, il faut tout de suite les affronter. Donc le système de combat, c'est simple, il y a une valeur à affronter contre les monstres, ils ont une force. Et vous, vous allez lancer un dé, alors cette fois il y a un autre dé, c'est un dé à 10 faces. Donc vous lancez un dé à 10 faces et vous ajoutez votre bonus de combat, que vous avez sur votre fichette là, et vous ajoutez éventuellement les bonus des objets que vous avez, et il faut essayer de dépasser ou d'atteindre la force du monstre.
Ok, ouais.
Alors si vous le battez, ça va vous augmenter votre force de combat. C'est-à-dire que chaque monstre dit, ben voilà, toi si tu me bats, tu gagnes plus 2 en force de combat, par exemple.
Okay.
Vous devenez plus fort.
C'est
vous taper les monstres.
Ouais, c'est un peu étrange parce qu'on devrait perdre de l'énergie, plutôt, tu vois, ça fatigue. Mais en même temps, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Alors du coup, ça nous tue pas.
Tu gagnes de l'expérience, quoi.
C'est Nietzsche hein, comme truc. Par contre, si vous le battez pas, vous perdez un point de vie. On perd toujours que un point de vie. Et le monstre va rester sur la case. Et okay. Quand il y a des cartes comme ça qui restent sur la case, la prochaine fois que quelqu'un va dessus, au lieu de résoudre la case, bah, il va être obligé d'affronter le monstre.
D'accord, ouais. Ouais, il va pas piocher une carte et voir ce qui se passe, il va tout de suite devoir affronter.
Et c'est compétitif, c'est le premier à Shangri-La qui gagne. C'est pas du co-op ou quoi?
Alors, on y reviendra sur
okay,
ça.
Ok,
mais dans l'idée, c'est compétitif, oui.
Ok.
Et si, à noter que s'il y a égalité, le monstre reste sur la case aussi, mais tu perds pas de points de vie. En fait, t'as ni gagné ni perdu.
Ah, ok,
quoi. Il y a un système de critique, c'est-à-dire que si vous faites 10 sur le dé, vous gagnez automatiquement.
Quelle que soit la force du monstre.
Voilà, si vous faites 1 sur le dé, vous perdez automatiquement. Okay. Il y a aussi des cartes de lieu qui restent aussi sur la case, et qui, la prochaine fois que quelqu'un va dessus, va se taper le lieu, voilà. Dernier petit truc, on peut, si on tombe sur la même case qu'un autre joueur, on n'est pas obligé, mais au lieu de faire l'action, on a le droit de combattre le joueur. En gros, chacun jette le dé et rajoute sa force. Celui qui a le plus peut choisir soit d'enlever un point de vie à l'autre, soit de lui voler un objet, soit de lui voler 300$, sachant que les dollars, c'est par tranche de 100, soit de lui buter un de ses potes. C'est horrible. Et il faut savoir qu'il y a quelques armes qui sont à distance. Les armes à distance, c'est des items, enfin des objets, qui vous permettent de... Comment dire, de pas perdre de vie si vous ratez votre jet de dé.
Okay.
Voilà. C'est un combat où à coup sûr vous allez tuer l'autre. Tiens, je vais préciser ce qui se passe quand on meurt, peut-être aussi, accessoirement. Donc quand vous avez plus de points de vie, vous avez le droit de prendre un nouveau personnage. Vous repartez de zéro avec un nouveau personnage. Et tout l'argent que vous aviez va être hérité par... Enfin, votre nouveau personnage va en hériter.
Donc c'est un roguelite.
Et pour vos objets, vous faites un jet de dé pour chaque objet. Et si vous faites 3 ou plus sur un D6, votre personnage en hérite. Sinon, vous le défaussez. Donc vous avez 2 chances sur 3 pour chaque objet de le garder pour votre nouveau personnage. Mais a priori, la grosse pénalité, c'est surtout que vous repartez avec votre force initiale, quoi.
Oui, bien sûr, ouais. Donc faut parce que bah évidemment il n'a pas eu l'expérience de l'autre, il a hérité de certains de ses objets ou de possessions matérielles, mais pas de son corps, quoi.
Tout à fait. Et donc quand on arrive sur Shangri-La, en fait en début de partie, on aura mis une carte et une seule de Shangri-La sur la case de Shangri-La. Et donc quand vous arrivez dessus, on la révèle et en fait il y a plein de fins de partie différentes. Et donc si vous arrivez à affronter le truc final ou un truc comme ça, vous avez potentiellement gagné la partie. Mais en fait, potentiellement, il peut y avoir plusieurs personnes qui gagnent, plusieurs personnes qui perdent. Okay. Tout le monde qui perd, plusieurs
parties
des...
en fonction de l'événement que tu tires, quoi.
C'est ça.
Partie des jeux que tu disais où il n'y a pas forcément une personne qui gagne et tout ça, tu en parlais dans le dossier, je crois, sur l'innovation.
Ouais, c'est ça, exactement. On renvoie vers d'autres émissions.
Eh oui.
Bon, vous voyez pas de quoi c'est la repompe alors ce jeu.
Ben, j'arrive pas à voir parce qu'il y a cette histoire de trucs concentriques et d'expérience et tout, mais j'arrive pas à visualiser comme ça un jeu plus ancien. Comme ça, avec
moi, je vous ai dit toutes les règles, donc là, je vais vous dire la réponse. Hein. C'est pour ça, je vais savoir si vous.
Ouais,
voulez
ouais, ça fait vraiment. Ça fait vraiment truc inspiré du jeu de loi. Donc ça, enfin, tu vois, ça fait penser à différents trucs, mais il y a pas un truc évident qui me vient, non.
Qu'est-ce qui serait un jeu de loi à l'américaine comme ça?
Bah, c'est
Talisman.
La bonne paye.
Oui, Talisman vient la trouver. C'est Talisman. C'est complètement Talisman.
J'ai jamais joué à Talisman.
Non, moi non plus.
Ah bah voilà. Bah sachez que Talisman, c'est vraiment. À 80% ça, quoi.
Ok.
C'est aussi des pistes concentriques comme ça. Okay. Avec,
Il faut passer d'une à l'autre par certaines cases. Ok.
Bon, du coup, vous avez compris que le truc drôle, c'est pas forcément le gameplay, parce que pour le coup, je trouve ça plutôt cool qu'il se soit inspiré d'un jeu de société moderne.
Un vrai jeu.
Un vrai jeu. Mais ce qui est vraiment intéressant et bizarre, c'est évidemment le contenu du jeu, donc les cartes. Les textes et tout ça. Donc maintenant, je vous ai traduit, je vous ai dit pas mal de cartes. Mais déjà, on va faire un tout petit point visuel. Visuellement, je sais pas comment dire, c'est à la fois beau et à la fois laid. C'est-à-dire que y a vraiment un truc très coloré et très surchargé. Mais les dessins, on dirait que c'est fait vraiment par des amateurs, tu vois. Et il y a certains dessins, c'est de l'ordre du truc fait sous paint, quoi, presque, tu vois. Moi, j'exagère un petit peu, mais... Et en même temps, c'est certaines cartes...
Ça a son charme, c'est ça?
Ouais, ça a son charme, c'est-à-dire il y a certaines cartes qui sont juste un peu ridicules, mais il y en a, elles ont un style graphique complètement différent. Elles ont toutes des styles graphiques un peu différents, et je trouve ça vraiment très, très bizarre. Surtout les cartes de Shangri-La, les cartes de fin, là. Il y en a qui ont vraiment des gueules assez cool, je trouve.
Mais c'est un peu le principe du clown en même temps, non? D'être à la fois beau et laid,
weird.
Un peu bizarre, ouais, un peu.
Weird. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça marche un peu, quoi. Tu vois, c'est presque cohérent, quoi.
Bah, c'est toujours plus intéressant d'avoir un truc qui est l'identité, combien même, plutôt que tous les trucs actuels, quels que soient les illustrateurs ou illustratrices, où il y a cette culture un peu du rondouillard et du. Enfin. Comme depuis une période Settlers, on en parlait déjà à l'époque, mais où il y a vraiment un peu tout qui se ressemble et où c'est très lisse, quoi.
Oui, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, pour info, pour la victoire, il y a aussi quelques actions, quelques cartes qui vous permettent de gagner directement plutôt que d'aller à Shangri-La. Et je ne sais pas pourquoi, dans les règles, ils précisent qu'un joueur qui possède telle carte, telle carte, telle carte, telle carte, a gagné. Alors,
c'est une condition de victoire immédiate, quoi.
Je sais pas pourquoi, j'imagine que quand on regarde les cartes, ça fait une combo infinie ou un truc comme ça.
Ah ouais, peut-être.
Qui te fait gagner, mais tu vois, dans le texte, c'est écrit l'incroyable, je veux ma victoire, loophole. Ça, je sais pas comment le traduire en français, mais
la
boucle infinie, la martingale, on pourrait dire. Donc, la martingale incroyable, je veux gagner. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, graphiquement, le dos des cartes. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs types de cartes. Pour les cartes de Détroit, le dos, c'est. Vous imaginez le dé de Détroit, il est à l'intérieur d'un vinyle dans lequel il y a un dé en lettrine gothique, comme ça.
Ouais.
Okay. Et le reste du mot étroit, donc. Et c'est un graffiti.
Ouais.
Et donc, à droite du vinyle, il y a tout un graffiti comme ça. Voilà, donc c'est un peu l'esthétique. Pour le vide inférieur, il y a une sorte de bête, mais juste la silhouette d'une bête à forme humanoïde avec des ailes. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de gargouille comme ça,
okay.
Qui est dans une espèce de grotte comme ça et qui entoure le mot Nether Void, donc vide inférieur.
C'est pas la reine du maïs.
Non, c'est pas la reine du maïs. Et pour le carnaval sombre. Donc on a une sorte de truc un peu chthonien, un truc à la Cthulhu, comme ça.
Avec des tentacules.
Mais pareil, juste la silhouette, voilà, des tentacules noirs, comme ça, qui sont en dessous d'un carnaval. Donc on voit des grandes roues, des attractions, des choses comme ça. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du contenu. Donc au niveau des personnages qu'on peut jouer, alors vous vous rappelez, il y a des personnages qui viennent du vide inférieur, d'autres qui viennent du carnaval sombre. Alors ça, a priori, ça sert à rien. C'est juste un trait caractéristique qui, selon... Ouais, c'est du lore, mais a priori, il y a certaines cartes qui interagissent avec ça.
Ouais, mais il y avait l'air d'avoir des gentils et des méchants quand même dans le lore, là. Il y avait ceux qui voulaient...
Ouais.
sauver...
Oui, c'est ça, mais en termes de...
Okay.
En termes de gameplay, ça change rien.
Tu peux jouer l'un ou l'autre, quoi.
Tu peux jouer l'un ou l'autre, ouais, tout à fait. Donc, si vous prenez un personnage du vide inférieur, par exemple, il y a le ninja magique. Celui-là, il est assez cool. Il y en a un qui s'appelle Hack Benjamin.
Ah
genre, genre Benjamin le hacker.
C'est pour moi, ça.
Et voilà. Et il y en a un autre, par exemple, qui s'appelle Kill Nord. Donc, je ne sais pas trop comment le traduire. Tueur Nord. Voilà.
Ouais, Nord, il y a un côté un peu viking, tu vois. Peut-être. Il n'y a pas des umlauts, là, sur le haut, des trémas.
Ah non. Non,
c'est barré.
C'est une espèce de démon, comme ça. C'est une espèce de démon.
Ouais, d'accord.
Donc ça, c'est le personnage du vide inférieur. C'est des exemples, hein, je ne les ai pas tous. Dans le carnaval sombre, on peut jouer les deux membres de Insane Clown Posse. Donc, il y a Shaggy Too Dope et Violent J. Violent J, d'ailleurs. C'est un J. Ça se prononce J en anglais. Et en fait, tous les membres du carnaval sombre, c'est tous des personnages, là, cette fois-ci, plutôt humains, humanoïdes. Avec des peinturlurations de clowns sur la gueule, donc on sent que c'est tous des juggalos en tout cas.
Ouais.
Okay.
Par exemple, il y en a un qui s'appelle Monoxide, et il y en a une, elle s'appelle Squeezie. Je trouvais ça marrant.
Peut-être qu'on apprendra que Squeezie, elle était
un
juggalo. Peut-être qu'il écoute un peu Insane Clown Posse, je ne sais pas. Dans les cartes de rencontre, donc d'action. Donc dans les cartes de Détroit, je vous donne quelques exemples. Il y en a un, par exemple, c'est le mauvais garçon. Donc lui, ça devient ton pote et il fait plus 2 en combat contre les adversaires. En gros, c'est un mec, tu vois, un peu habillé hip-hop avec des tatouages de partout, tu vois.
C'est quoi en anglais, les potes, c'est les bros?
Non, c'est les homies.
Les homies. Ouais.
Alors, il faut savoir que ça aussi, hein, ça fait partie du lore de l'Insane Clown Posse. Ils appellent leurs potes les homies, et donc il y a des chansons sur ça et tout ça. À Détroit, il y a une carte qui s'appelle Les joies du ghetto. Alors, je vais vous traduire le texte.
C'est écrit... un titre de sniper.
Les joies du ghetto, ouais.
C'est un event, donc ça se résout tout de suite. Vous vous amusez bien et pensez que tout est magnifique dans le ghetto, quand soudain, la police débarque pour vous arrêter à partir d'un motif inventé de toutes pièces.
Ah, ça dénonce.
Vous pouvez les corrompre en payant $100 pour qu'ils vous laissent tranquille, sinon ils vous emmènent immédiatement au poste de police qui est une case du jeu.
Il y a déjà plus de propos que dans la plupart des jeux actuels, en fait.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est un jeu politique un peu.
Alors ouais, il y a beaucoup de références aux violences policières dans le jeu, pour le coup.
Ouais, ouais.
Comme dans leur musique, hein, vous en doutez. Autre carte qu'on peut trouver à Détroit, c'est un événement qui s'appelle le défi de NX. Alors, je vous lis le texte. Dans un geste d'amitié, Nathan Extra, donc ça doit être NX,
NX, ouais,
vous donne un puzzle mental à résoudre. Malheureusement, vous perdez un tour à essayer de le résoudre avant de réaliser que vos capacités mentales sont très loin d'atteindre le minimum requis pour trouver la solution.
Mais t'es sûr que c'est NX et que c'est pas Nix pour Nix la police, tu vois?
Non, c'est vraiment écrit NX.
En vrai, c'est super. Enfin, je trouve ça cool de, plutôt que faire une carte passe ton tour à la con, tu vois. Il y a un peu de recherche la manière dont c'est amené, quoi.
C'est vrai. Mais du coup, tu vois, c'est marrant parce qu'à Détroit, tu peux trouver des potes, tu peux te faire tabasser par la police. Et tu peux avoir des énigmes à résoudre par Nathan Extra, qui est là et qui donne des énigmes.
Ouais,
des
il y a un côté Arkham, tu sais, un peu avec l'homme mystère et tout, de Batman, quoi, ouais, vois, où il y a une Docteur Enigma et tout.
Oui, c'est un peu ça, ouais.
Mais d'ailleurs, c'est dommage, parce que du coup, c'est un truc américain, donc ça marche pas, mais sinon, il aurait fallu qu'ils mettent un vrai Détroit, quoi, dans le jeu, mais ça marche qu'en français, quoi.
Est-ce qu'on sait si c'est un vrai mec, Nathan Extra, là?
Ah, alors, bah c'est peut-être le Nathan auteur du jeu.
Ouais, je me suis demandé si c'était pas une référence à Nathan Andron, un des deux auteurs du jeu. Je suis pas sûr, mais je me demande. Alors, dans le vide inférieur, vous pouvez trouver d'autres trucs. Par exemple, un lance-roquette qui fait une attaque à distance à +5 à usage unique. Ou encore, donc, la tête de Monsieur Johnson. Alors, l'illustration, c'est...
C'est un objet, ça.
C'est un objet, c'est un sac de sport qui est un peu entrouvert et on voit une tête qui dépasse, mais on voit juste l'œil et l'oreille et un bout de cheveu et plein de sang, donc on comprend qu'en fait c'est une tête décapitée quoi, qui a été foutue là-dedans. Je sais pas pourquoi, je connais pas assez le lore de Insane Clown Posse.
C'était un gang rival.
Ouais, c'est peut-être, je sais pas, alors le directeur du label ou un truc comme ça, non, j'en sais rien. Et en gros, ça te permet de faire une victoire automatique lors d'un combat, quoi.
Ok.
Tu le jettes dans le lore, tu le jettes à la gueule de l'ennemi et il est dégoûté et il perd le combat. Je vous ai traduit aussi un autre événement, c'est Missy. Alors Missy, sur l'illustration, c'est une meuf comme ça qui est vraiment très très grosse, tu vois, et qui est en train de manger de la pizza. Et le texte, c'est « La charismatique Missy vous emmène dans sa Cadillac rose. Si vous lui achetez pour $100 de pizza, elle vous emmènera n'importe où dans le vide inférieur. »
Ok.
C'est très bizarre.
Mais ouais, ça se trouve, c'est inspiré de...
Un personnage,
de gens de la communauté, quoi. En fait, tu vois, célèbre des...
Ouais,
du Galos, peut-être, je sais pas.
D'un morceau ou...
Je sais pas, parce qu'elle a pas de peinture luration sur la gueule.
Ok.
Je pense que c'est plutôt un des personnages de lore un peu bizarre.
Ouais, ouais.
Parfois, on va vous demander de piocher des cartes bone, donc des cartes d'os. C'est certaines actions ou certaines cases qui vous disent de piocher une carte d'os et c'est jamais bon. C'est des espèces de...
Ah, c'est jamais bon de sortir les d'os, hein.
c'est toujours des espèces d'événements négatifs. Donc, par exemple, il y en a une, c'est Carmageddon.
Qui est un jeu vidéo, en vrai. Hein.
Ouais, oui, c'est vrai. Donc, Carmageddon, le texte, c'est « Votre karma a atteint un niveau gravement bas. À cause de ça, vous ne pouvez plus acheter, pouvez plus gagner d'argent, d'objets ou de potes. Défaussez chaque carte que vous devriez obtenir de cette manière. Le seul moyen de soigner votre karma est de vous rendre à Oz. Défaussez cette carte à ce moment-là. » Donc il y a une case, c'est Oz.
Oz, comme le magicien d'Oz, quoi.
Comme le magicien d'Oz.
Donc, comme le jeu, c'est peut-être une référence au jeu d'Emmanuel Ornella qui n'est pas encore sorti. On va appeler Dédé pour un Ludo par année.
Par 2007, c'est pas loin de sortir.
Je pense que ça va être la fin des années 2000, ouais, mais je pense qu'il est inférieur. Quand même.
Voilà. Faites attention à votre karma, sinon vous ne pouvez plus avoir d'argent, d'objets ou de potes dans la vie.
Bah oui.
Logique.
Dans les cartes de bone, on peut aussi subir une amputation. Donc voilà, le texte c'est un accident extraordinaire vous fait perdre un membre. Et donc tu lances un D6 pour savoir si c'est un bras ou une jambe que tu perds.
Est-ce que dans les cartes de bone, il n'y a pas un son du groupe? Parce que tu vois, où ça serait genre quand la musique est bonne, non? Il n'y a pas.
Oh là là!
J'écris les blagues pour leur jeu, quand ils veulent.
Ouais, je vois ça.
La VF en tout cas.
Une dernière carte de Bone que je peux vous lire, donc DOS, c'est le roi du grand os. Alors, le texte, c'est « Ce roi maléfique vous téléporte vers un royaume de désirs refoulés. Retirez votre pion du plateau. Pendant 10 minutes, vous ne pouvez plus participer au jeu. Après, tu réapparais sur la même case.
Si tu as quelqu'un qui a beaucoup d'analysis paralysis, ça va, ça fait un tour.
Voilà. Ça, pareil, je trouvais ça assez rigolo. Plutôt que de passer ton tour, tu joues plus pendant 10 minutes.
Ouais, c'est rigolo parce que ça fait appel à un truc qui est en dehors de la durée du jeu, puisque c'est 10 minutes de la vraie vie, quoi.
C'est ça.
C'est comme un carton jaune au rugby, quoi.
Ouais. Après, il y a un autre type de carte aussi, c'est les cartes achats. Donc, en fait, certaines actions, pareil, vous permettent de faire des achats, mais ça vous fait piocher une carte. Donc, en fait, vous faites un achat aléatoire à chaque fois. Donc, il y a plein de trucs à choper. Il y a surtout des voitures ou des armes, par exemple. Et la seule carte qui m'a fait marrer là-dedans, c'est un truc qui s'appelle le 2 litres. En gros, c'est un soda. C'est un soda qui s'appelle le 2 litres.
Ok.
Ça, c'est marrant. Il fait partie de la combo pour gagner la partie.
Ah là là. Ah ouais, les sodas.
Après, ouais, le 2 litres, c'est une taille un peu standard aux États-Unis. Hein.
Ah oui, c'est,
bah ouais,
ça, ouais.
C'est ça. Et évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va regarder un peu les cartes de Shangri-La.
Donc les cartes qui déterminent qui a gagné, quoi.
Exactement. Alors, la première carte, je ne vais pas vous les dire
toutes. Il y en a beaucoup ?
Il y en a 10.
Ok.
Et en fait, elles n'ont pas de texte sur les cartes. C'est-à-dire qu'il y a juste une grande illustration. Et il faut que vous alliez regarder dans la règle. Il y a toute une page complète, enfin même deux pages complètes
pour expliquer
les cartes.
Ça aurait été rigolo qu'il n'y ait même pas ça, tu vois, qu'en fait, il faut que tu interprètes juste avec l'image.
Ouais, oui.
C'est trop bien.
La première que je voulais vous présenter, c'était le maître ninja ivre.
Ok.
Donc lui, c'est une sorte de boss de fin. C'est-à-dire qu'il a une force de 25 et il faut le battre. Et si tu le bats pas, tu perds un point de vie et il te re-téléporte sur une autre case qui est à peu près au début. Okay. Je sais pas, le district du chaos, j'imagine que c'est un truc dans Détroit. Et en fait, il reste là sur la case jusqu'à ce que quelqu'un l'ait tué. Et à ce moment-là, il a gagné.
Cette personne gagne, ouais, ok.
Après, ouais, c'est connu, hein, la technique de l'homme ivre, une technique bien connue.
Oui, c'est ça. En anglais, c'est le Drunken Ninja Master.
Ouais.
Mais on se rappelle, il y avait déjà, dans les personnages qu'on peut jouer, il y a le ninja magique.
Ouais, il n'a pas un avantage contre le...
Est-ce que c'est pas une référence aussi au... Il y avait une vidéo virale,
magique,
une des premières vidéos virales, c'était le Drunken Jedi Master.
Ah, ouais.
Je sais pas si c'est. Je vais vous chercher Drunken Jedi Master, mais c'était un gars qui s'était filmé, je sais pas où, avec un balai, tu sais, et qui faisait.
Oui.
Qui faisait semblant d'être un Jedi, là. Et il y avait quelqu'un qui avait fait des effets spéciaux par-dessus.
Ouais.
C'était assez énorme.
Exact. Le ninja magique a bien un avantage contre.
Ah, ok.
Le ninja, c'est juste qu'en fait, il est pas re-téléporté au tout début, il reste sur la case, en fait.
Okay.
Parce que c'est écrit dans le texte que le Drunken Ninja Master l'honore, tu vois.
Ah ouais, bah oui, hein, entre ninjas. Hey.
Entre ninjas, on se respecte. Ensuite, il y a la baguette de Milenko. Okay. Alors, Milenko, dans leur lore, c'est ce qu'ils appellent une carte Joker. En fait, dans leur lore, il y a des albums qui sont plus importants que d'autres, et qui représente un personnage, et qui est à chaque... C'est ça qu'ils appellent des cartes Joker. Okay. Et par exemple, la musique que je vous ai fait écouter tout à l'heure, ça vient de l'album de la carte Joker de Milenko, qui est une espèce de magicien, en fait.
Ok.
Voilà. Et donc, la baguette de Milenko, donc en fait, la personne qui arrive dessus va s'équiper de la baguette de Milenko, et en fait, à chaque tour, elle a le droit de tirer un coup de baguette magique sur un joueur n'importe où sur le plateau. Ça lance un dé à 10 faces, et en fait, là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a une grille de résolution, donc soit vous lui faites perdre de la vie, soit vous lui tuez ses potes, soit si vous faites un 10, vous le vaporisez, c'est écrit.
Et bien ouais, c'est la critique, quoi.
C'est, ouais, vaporiser hors de l'existence, plus exactement. Et ça le tue direct, et en gros, bah, vous restez là avec la baguette de Milenko à tirer sur les autres, jusqu'à ce que soit vous soyez le seul survivant, soit quelqu'un arrive sur Shangri-La, dans ce cas vous faites un combat à mort, c'est-à-dire vous vous battez jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait plus de vie, et le survivant prend la baguette et va vous remplacer, quoi, jusqu'à ce que ça devient un genre de battle royale, en fait.
Ah ouais.
Ok.
Mais avec celui qui est au milieu qui shoot à chaque tour, quand même, donc il a un gros avantage.
Ouais, c'est un peu comme King of Tokyo, quoi, où t'es Tokyo et tu mets des baffes, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, mais ça a sens unique, là, pour le coup.
Et tu choisis à qui tu les mets, quoi, aussi.
C'est ça. Et je voulais vous en parler d'un dernier, c'est la 17e dimension.
Ok.
Donc, sachez que dans le lore, donc c'est, enfin dans le texte qui est écrit dans les règles, c'est écrit que la 7e dimension est infiniment maléfique.
Okay.
C'est important. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous faites aspirer, vous, votre argent, vos potes et vos objets dans la 17e dimension, qui est extrêmement maléfique. Et vous avez, c'est écrit... extrêmement perdu la partie.
Ok, il y a des donc, échelles de défaite. Quoi.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, on va t'es retiré du jeu, tu prends toutes tes cartes et tu vas les mettre dans le congélateur le plus proche.
Ok, pourquoi pas.
Dans la vraie vie. Et, et les autres prennent une autre carte de Shangri-La pour remplacer et toi, t'es hors de la partie.
Est-ce que tu ramènes des bières au passage?
Ça aurait été marrant que l'échec critique ce soit tu sois obligé de détruire le jeu, tu vois, genre en legacy, tu déchires toutes les cartes et tu.
Bah déjà, tu dois les mettre dans un congélateur.
Ouais,
j'ai trouvé ça trop cool, tu vois. T'as pas juste perdu la partie, mais tu dois aller foutre tes cartes dans un congélateur.
T'as trop perdu la partie. Quoi.
En termes de mise en scène, c'est génial, je trouve, tu vois.
Pourquoi le congélateur? Il y a un lore et tout dans leur musique ou quoi que ce soit lié au
congélateur, bah...
sûrement parce que...
je pense pas. Non, je pense que c'est juste une représentation physique de
figer quelque chose, quoi.
Ouais, voilà, t'es dans la 17e dimension, t'es juste t'es tellement plus là que tes cartes elles vont ailleurs, quoi. Elles sont enfermées quelque part, quoi.
Ok.
Voilà, il y a des trucs comme ça, un peu méchants. Bon, faut savoir qu'il y a aussi la carte inverse, hein, qui s'appelle, on va appeler ça le dévoilement, qui fait que tu gagnes immédiatement la partie aussi. Hein, ça existe aussi. Bon, voilà, et juste sans vous expliquer le principe, mais sachez qu'il y en a une aussi qui s'appelle Monsieur Confiserie Pourri.
D'accord.
Et c'est des dents jaunes comme ça, avec d'une sorte de sucre fondu comme ça qui les relie, comme s'il était en train de mastiquer des confiseries, et les dents sont un peu craquelées comme ça. C'est assez horrible. Voili voilou. Donc, on a fait le tour du contenu. Je propose que maintenant on parle un peu de l'auteur, de l'éditeur et d'autres anecdotes que j'ai glanées ici et là. Alors, donc, vous souvenez, il y a deux auteurs. Il y a Nathan Endron et Robert Bruce. Donc, ces deux personnes ont fait d'autres jeux. Notamment, ils sont tous les deux co-auteurs, avec une troisième personne, d'un jeu qui s'appelle Morton's List. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ?
Ça ne me dit rien du tout.
Non.
Alors, c'est du jeu de rôle, pour le coup.
Okay. Okay.
C'est sorti en 2001, donc bien avant The Quest for Shangri-La. Et peut-être vous en auriez entendu parler, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça amusant. Il y a eu un Kickstarter pour relancer le jeu il y a même pas un an, là.
Ok.
Et en fait, c'est marrant, parce que le jour où je faisais mes recherches pour ce nanar ludique, eh ben, c'était, je crois, le dernier jour du Kickstarter. Donc j'étais en mode, ouah, coïncidence de fou, quand même.
Ouais, bah on a bien fait de repousser, du coup. Ça, oui. C'est dans l'actu. Est-ce que c'est pas les éditeurs qui t'ont payé pour...
Et donc, Morton's List, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de rôle qui se joue dans la vraie vie. Donc, dans l'idée, vous tirez sur des tables aléatoires une quête, et cette quête va vous demander de faire des choses dans la vraie vie.
Énorme.
Donc, vous restez pas à votre table de jeu de rôle, c'est un peu ça l'idée, quoi.
Donc, c'est les sneaky cards, quoi.
Ouais, c'est un peu les sneaky cards bien avant l'heure, et évidemment, ça va assez loin parfois, donc il y a plein de mécanismes de... merde, comment on appelle ça ? De sûreté ? Non, c'est pas comme ça qu'on traduit en français.
Les triggers ? Enfin, des...
Ouais, des...
Genre la X-Card, quoi, et tout.
Des déclencheurs ?
Ouais. Non, justement, des trucs de protection, quoi.
Ouais, c'est ça, de sécurité émotionnelle, voilà. C'est ça que je voulais dire.
Ah, ok.
En 2001, hein.
Ouais, alors je sais pas si c'était déjà le cas à 100% dans la version de 2001.
C'est peut-être un stretch goal.
Mais pour le coup, je pense que oui. Hein.
En stretch goal, vous pouvez jouer de manière safe.
Bah, en tout cas, dans la nouvelle version, c'est sûr, quoi. Mais dans l'idée, en fait, tu vois, tu lances plein de dés. Alors, il y a tout un rituel, en fait. C'est-à-dire, tu te retrouves vraiment à un endroit, tu lances des dés, etc. Et là, c'est là qu'il y a tous les mécanismes où tu peux dire, bah non, moi, j'ai pas envie qu'on aille vers là et tout. Et à la fin, en fait, tu vas lire une page qui va te dire qu'est-ce que tu vas faire, et puis hop, tu vas le faire. Donc, je sais pas, ça peut être, tiens, on va aller dans la rue parler à des gens pour les convaincre que...
Macron démission.
tel film est génial, tu vois. Ça peut être ça, par exemple. Et moi, je trouve ça... Enfin, j'ai regardé parce qu'il y a quelques exemples. Dans le nouveau Morton's List, en fait, il y a une table aléatoire qui se trouve sur le site. Et en fait, quand tu achètes le livre, ça peut te dire d'aller sur le site en tant que table aléatoire. Voilà, bon, peu importe. Et donc, du coup, j'ai lu un peu et je trouve qu'en plus, c'est vraiment bien écrit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a tout un contexte qui t'explique, entre guillemets, en termes de lore, pourquoi tu fais ça dans la vraie vie, tu vois.
Ok, ouais.
Mais bon, voilà, des fois, ça t'incite quand même à aller, aller taguer des trucs, à aller prendre de la drogue, des trucs comme ça. Alors, je prends exprès les trucs les plus extrêmes et vraiment, ouais. Encore une fois, il y a plein de mécanismes de sécurité émotionnelle qui ne t'obligent pas du tout à faire ça. Et du coup, ce jeu a été très populaire dans les conventions de Juggalos, du coup.
Bah oui.
Parce que les Juggalos, en fait, il y a vraiment une mentalité très anarchiste. Et donc, du coup, ils aiment bien se dire... souvent un peu en mode fêtard, ou en mode... Ils se retrouvent entre gens qui se connaissent pas, et ils se disent, viens, on fait des trucs aléatoires, et puis ils jouent à Morton's List. Vous voyez, c'est intéressant, en fait, comme jeu. Tu vois, ça te force à avoir une activité aléatoire. Tu ne choisis pas l'activité que tu vas faire. Enfin, moi, je sais pas, ce jeu me fascine. Parce que vous en pensez. Mais...
Non, si, c'est. En fait, ça me fait un peu penser au. Tu sais, au killer où. Enfin. Tu dois. Enfin, c'est assez différent quand même, mais. Tu sais, quand t'es en soirée, en week-end, et tu dois faire quelque chose à quelqu'un, et.
Ouais, action-vérité en fait. Un petit peu. C'est ouais. un peu action-vérité, mais ouais. Déterminé de manière aléatoire et non sur le choix des personnes qui jouent. Et ça correspond un peu. Bah, après, il faut se rappeler d'où vient le hip-hop. Hein. C'est un mouvement contestataire et tout, comme le punk et compagnie. Et l'horrorcore notamment, c'est souvent rapproché de la communauté punk, voire de métal extrême, etc. Où il y a quelques filiations comme ça qui se font, que ce soit dans le visuel, que ce soit dans les thématiques aussi. Notamment, alors c'est pas de l'horrorcore, mais t'as des rappeurs des années 90 qui faisaient des trucs qui se rapprochaient beaucoup, beaucoup du métal assez extrême, quoi, en termes de sonorité, très, très indus et tout. Et y a des ponts qui se font au niveau de la contestation et de l'envie de être un peu à la marge du système, quoi.
Donc voilà, ça, c'est le seul truc où on retrouvera Nathan Andren, mais il y a aussi Robert Bruce avec. Et par contre, Robert Bruce, lui, il a fait beaucoup d'autres jeux. Enfin, beaucoup. Il a fait quelques autres jeux, je vais plutôt dire. Et donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il s'appelait aussi Jump Steady, si vous vous souvenez.
Ouais. Mmh.
Parce qu'en fait, bah, Jump Steady, c'est aussi un rappeur.
Oui, bah oui, avec un pseudo.
C'est en fait le grand frère de Violent J, qui est du un des membres de Insane Clown Posse. Et en fait, c'est a priori, c'est un peu une des personnes qui gère le label, si j'ai bien compris.
Ok.
Et donc je vous propose qu'on écoute un peu de Jump Steady. Attack the barricade with my bloody double blades. As soldiers stand dismayed at a warrior unafraid. Cause I'm fortified to do or die on the battlefield. How you feel when 5 feet of steel is revealed? Death the final price to pay for those who try to run away. You wanna win, best begin trying to be my protege. While the sun sets, the soul slip away to where the catacron is, where the body slept while the mother's wept. Voilà, donc c'était Master of the Flying Guillotine de Jump Steady.
Beaucoup aimé l'instru.
Ouais, on est dans des trucs un peu... Enfin, sur cet album-là, en tout cas, on est sur des trucs sample de vieux films asiatiques. Donc voilà, c'est un peu son délire. Donc, c'est assez old school aussi. Hein, c'est
Notamment au niveau du flow, tu vois. Autant ce que tu passais au début avait un flow qui peut se retrouver aujourd'hui plus parmi des rappeurs. Je parlais de Danny Brown, alors qu'un flow beaucoup plus abrasif et tout, très très. Nasillard d'ailleurs, plein de gens qui n'aiment pas du tout le flow de Danny Brown parce qu'il a une voix très particulière, mais alors que là il y avait vraiment un flow des années 90 du rap un peu plus classique quoi chez Jump Steady et puis après les instrus, ouais, après c'est toujours très difficile de situer de la musique dans le temps. Moi je faisais ça avec des élèves où on écoutait une musique et j'essayais un peu de les faire resituer. Alors j'essayais d'éviter les pièges et de prendre des musiques assez représentatives de l'époque parce qu'en fait surtout aujourd'hui, ben, les gens ils font plein de trucs de revival, que sais-je, etc. Et du coup, tu peux facilement te faire piéger. Quoi.
Voilà, là, pour le coup, c'est lui, il a plutôt œuvré dans les années 2000, en l'occurrence.
Ok, ouais.
Et Jump Steady aussi, il est... Alors, comme les... Alors, je ne sais plus si c'est les deux membres de Insane Clown Posse ou juste Violent J, mais ils sont catcheurs professionnels aussi.
Ouais. Ben, ça va avec Maskman. Ouais,
ça va avec l'esthétique, ouais. Ouais, et puis mais ça va avec l'esthétique des clowns, du masque, enfin du personnage
carrément.
En fait.
Carrément.
Ça m'étonne pas.
Ouais, c'est ça. Truc rigolo aussi, Jump Steady dans les années 90, il a fait un groupe qui a un seul album qui s'appelle Golden Goldies où toutes les lyrics, toutes les paroles sont basées sur l'or.
Ok.
Voilà, c'est marrant. Mais sinon, en termes de jeu, alors il a fait un autre jeu de rôle après Morton's List qui s'appelle Pendulum's Promise. Alors, j'ai pas trop cherché hein, là-dessus. C'est un jeu qui est sorti en 2003, mais a priori, c'est un jeu de rôle qui est pour les Juggalos, donc ça joue sur l'univers de Insane Clown Posse. Et donc après, il a fait Quest for Shangri-La. Et plus récemment, en 2016, ouais, il a fait un jeu qui s'appelle Into the Ecocide, qui est un deck building. Dans l'univers des Juggalos.
D'accord.
Et a priori, il est pas mal. Il y a plein de gens... enfin, sur BGG, il a une note de 7,7. Donc...
Ouais, après, il y a plein de jeux 7,7 que...
Ouais, enfin, voilà.
qui sont loin d'être pas mal.
Il y en a plein qui le comparaient un peu à Mystic Veil pour le côté stop ou encore, je crois.
Ah, yes. Okay. Ouais, moi, c'est... J'aime bien... Dans Living Forest aussi, ils avaient repris ça. Et j'aime bien le mélange entre les deux.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut faire penser à Living Forest maintenant, mais à l'époque, le jeu était...
Oui, bien sûr, Mystic Veil.
Bah voilà, c'est tout ce que j'avais chopé sur les auteurs. C'est déjà pas mal. Ils ont... Donc, vous voyez, c'est intéressant. Il est Jump Steady, pour le coup, il a l'air de s'y connaître un peu en jeu de société moderne. Quoi. Même s'ils ont, à la base, ils viennent plutôt du jeu de rôle. Eh bien, écoutez, on va aller sur la partie maintenant où je vous ai collecté quelques avis et commentaires sur le jeu. Alors, sur Board Game Geek, le jeu a une note de 7,5.
Avec combien de notes ?
Sur 10.
Non, avec, sur 10, ouais, mais combien de...
Avec 43 notes.
Ah, c'est pas beaucoup.
Ah, c'est pas mal, hein.
C'est pas mal, ouais, on a déjà...
Pour un nanar.
Ouais, après, c'est la commune... Enfin, tu vois, c'est les Juggalos et tout, c'est la communauté qui joue et qui va noter.
C'est ça.
Forcément aussi une note qui est potentiellement plus haute que par rapport à... Par rapport à la qualité ludique de l'objet, quoi.
En tout cas, c'est le nanar avec la meilleure note qu'on a jamais fait dans cette émission. Hein.
Mais en vrai, la description et tout, ça a l'air rigolo, tu vois. C'est pas le jeu de l'année, mais découvrir les cartes, ça a l'air rigolo, tu vois. Donc, t'as envie d'en faire une partie pour voir, tu vois.
Grave. Bah, après, on donnera notre avis à nous après.
C'est un jeu que tu as d'ailleurs, Pionf ? Tu nous as pas dit.
Non, je ne l'ai pas. Ça a l'air très difficile à trouver.
Ah, j'imagine.
Et je crois que les gens qui revendent ça, ils revendent ça 200 balles. Et en plus, c'est que aux États-Unis. Donc, il faut que tu payes les frais de douane.
Si vous voulez me faire un échange contre Ankh-Morpork, vous me dites.
du coup, il y a 13 commentaires. Alors, je vous en ai sélectionné quelques-uns que je vous ai traduits. Mais avant ça, je voulais remercier Hive God, qui est une personne donc, de Board Game Geek.
Rappeur, sûrement, avec un pseudo.
Non, même pas. Et en fait, cette personne, c'est elle qui m'a envoyé les règles.
Ok.
Je lui ai envoyé un petit MP parce que j'ai vu que voilà, cette personne est très fan du jeu. Et c'est lui qui a mis toutes les photos qu'on voit sur Board Game Geek et tout. Alors, je vous invite évidemment à aller regarder les visuels parce qu'ils sont incroyables. Mais pas vous, hein, Beno, FX et Flavien.
Okay.
Je parle aux auditeurs et auditrices.
Moi, j'attends, là, je suis sur le starting block pour aller.
On peut dire thank you, I've got, you're the best. Voilà. Si jamais il écoute les il aura peut-être au moins compris ça avec mon accent.
Voilà, big up I've God, vraiment très très cool de m'avoir envoyé les règles. En plus, c'est trop drôle parce qu'il m'a envoyé presque un message un peu mystérieux, tu vois, il m'a dit « Ah, là je peux pas parce que je suis en déplacement, mais donne-moi une adresse mail et je ferai en sorte que ça arrive. »
Ouais, ça aurait pu être ta vraie adresse. Toi, t'inquiétais.
Alors, du coup, bah, je vous propose qu'en honneur de I've God, on lise son commentaire sur le jeu en premier.
Allez.
Il a mis 10 sur 10. Au jeu, évidemment. Sa review commence par « Fucking magnets, how do they work ?» Alors là, petite ref, hein, je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir la ref, mais si vous avez été sur l'internet du début des années 2000, il y avait un mème qui tournait beaucoup sur les sites américains, c'était « Fucking magnets, how do they work ?» Donc putain d'aimant comment ils fonctionnent.
D'ailleurs, c'est sur ce mème qui est né Cluster, peut-être.
Qui est un... Vous avez déjà vu ce mème, vous deux ?
Non, ça me dit rien.
Non, ça me dit rien non plus.
Et en gros, ce mème, c'est parce que c'est une phrase d'une des chansons de Insane Clown Posse. Et donc, si vous cherchez cette phrase, vous tomberez peut-être sur Know Your Meme ou un site comme ça qui vous parle de mème. Mmh. Et vous tomberez sur l'image.
Ok.
Donc maintenant, je vous traduis le reste de son commentaire. Oui, c'est un 10. Non, je ne rigole pas. Avez-vous déjà joué à un jeu qui avait l'air d'être conçu rien que pour vous ? Genre, c'est le jeu que vous avez attendu toute votre vie, celui que vous auriez fini par concevoir vous-même et que personne d'autre autour de vous n'apprécie.
C'est The Number, BenoFX.
C'est une repompe décomplexée de talisman à laquelle s'ajoute la vision du monde unique de l'Insane Clown Posse. C'est basiquement... tout ce que vous pensiez être vraiment vraiment cool quand vous aviez 15 ans, mélangé avec une philosophie gnostique bizarre où l'apothéose est atteinte simultanément par l'ascension et la damnation. Et bordel de merde, j'adore ce truc. Après, il dit PS, je ne suis pas un fan du groupe, je ne suis pas leur cible démographique, mais le jeu, une tranche de paradis avec une cuillerée d'enfer. Brillant dans sa manière à être un jeu, alors là je ne l'ai pas traduit, outsider art, de l'art outsider, on dit en français, il n'y a pas de traduction, on en reparlera après. Je ne peux pas l'expliquer complètement, mais ça me touche parfaitement bien. Voilà. Donc vous savez, ouais, l'art outsider, c'est les artistes qui sont en dehors des circuits classiques de l'édition ou de choses comme ça, et qui du coup font des trucs vraiment particulièrement chelous, on va dire.
Allez. L'art underground, un peu, on pourrait dire. Ouais, c'est pas les anglicismes. Mais...
Ouais, c'est un peu ça, mais à Outsider, il y a vraiment un côté, c'est forcément bizarre.
En dehors du cadre, quoi.
Ouais, en dehors du cadre. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'Outsider Music.
Ouais.
On cite souvent The Shags. En rap, il y a Viper the Rapper. J'adore Viper, hein, c'est exceptionnel ce qu'il fait.
Ouais, moi je suis pas un grand grand fan de Viper, mais en tout cas, c'est un mec que j'aime bien écouter. Mais
Ouais.
je suis pas un grand client de ce que ça me procure comme sensation, mais c'est un mec super intéressant.
Pour le coup, je trouve que Hive God a fait une magnifique critique.
Ouais, non, c'est très bien écrit.
Très bien
Et
écrit.
puis voilà, il exp... c'est marrant parce que du coup, il assume aussi dans sa critique que c'est pompé sur Talisman.
Oui.
Et dans ce qu'il dit, tu sens qu'il doit déjà bien aimer Talisman, tu vois, et que là, il y a une couche en plus qui fait que ça lui procure
Incroyable.
beaucoup d'émotions, quoi.
C'est ça, ouais. Il a vraiment focalisé sa critique sur les émotions, j'aime bien ça.
Ouais.
Alors, je lis d'autres avis. Donc, ensuite, on a Patrick Stockton qui a mis 10 sur 10. Il dit: Quel jeu! Je n'ai jamais joué à Talisman et je n'aurai jamais besoin de le faire. Je n'ai jamais écouté Insane Clown Posse et je ne le ferai jamais. Excellent jeu underground. Je suis content d'avoir trouvé la dernière copie disponible que j'ai trouvée sur le net. Mon but dans la vie est désormais de jouer avec Hive God. Je ramènerai les champis et le jeu.
Énorme.
Son avatar, c'est une photo de Frank Zappa en plus, je crois.
C'est les deux, voilà, t'as les deux fans ultimes du jeu sur Terre, quoi, qui se... Je sais
Mais
pas, ça se
lui,
trouve, ils ont joué ensemble depuis, hein.
peut-être, il s'est fait un peu convertir, tu sais, en voyant Hive God devenir ouf sur le jeu. Et tout. Ensuite, on a Crush Gals qui a mis 6 sur 10. Un clone de Talisman qui n'est pas aussi bon que Talisman, mais qui est intéressant par le simple fait qu'il existe. N'est-ce pas là la définition du nanar?
Et du coup, pas trop de commentaires de fans du groupe ou de pour l'instant, puisque
Alors,
les deux hype man du jeu, a priori, n'écoutent pas le groupe.
ouais, y en a quelques-uns, y en a quelques-uns, mais je les ai pas pris parce qu'ils sont pas très intéressants. C'est genre, ah, oh, j'adore Insane Clown Posse, voilà, c'est tout.
J'ai mis machin parce que à Kingdom Death Monster.
Ou alors ils font des refs que je comprends pas parce que je connais pas assez le lore. Voilà. Dernier avis que je vais vous lire, c'est Badtitude qui a mis 4 sur 10. Il a dit: Si vous ne jouez pas avec Hive God, aucun intérêt.
C'est ouf, Hive God, c'est le grand gourou en
Ouais, franchement,
fait.
c'est l'influenceur de
Mais
Quest of
oui,
Shangri-La. Ouais.
c'est génial. Écoutez, ben voilà, on a fait le tour des avis que j'ai trouvés sur BGG. Je vous propose qu'on donne notre avis. Alors, ben, tout à l'heure, Flavien a parlé en premier, donc cette fois-ci, ce sera Beno FX, car le premier joueur tourne. Beno FX. Alors, pas que ton avis, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce jeu en général?
Ouais, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est un nanar où t'as enfin. Alors la plupart des nanars, t'as envie de les voir ou de, tu vois, pour y croire. Mais celui-là, t'as presque envie d'aller un peu au bout de la partie pour. Bah voilà, parce qu'il y a un univers quand même qui est singulier. Je pense que c'est encore plus intéressant si tu connais vraiment l'univers et que tu fais partie des Juggalos, parce que je pense que là, il y a des cartes qui doivent nous sembler marrantes ou tu vois, nous titiller déjà nous. Mais je pense que quand tu connais bien le lore, ça doit être. Tu vois, la première fois que tu joues, tu dois retourner un truc, tu dois faire trop bien, tu vois. Ça doit
Ouais, c'est clair.
te faire vivre des émotions de découverte et de connexion avec le lore qui doivent être cool. Après, je connais pas non plus Talisman, mais du coup, le jeu a pas l'air. Enfin, il a l'air construit sur des bases quand même, bah, comme tu disais, de jeux modernes qui ont l'air quand même plus intéressantes que la plupart des nanars que tu nous proposes généralement. Enfin, il y a une certaine, y a plus de cohérence, on va dire. Et ouais, l'univers a l'air juste cool, tu vois. Donc, t'as envie d'aller gratter un petit peu l'univers et ce que ça peut cacher, quoi. Donc, bah, en vrai, bon, ça a l'air très dur à trouver, comme tu le disais, mais à l'occasion, si l'occasion se présente, je dirais pas non à une partie, clairement.
Ça marche. Et toi, du coup, Flavien?
Ouais, bon, un peu le même avis, c'est-à-dire que ça a l'air d'être un jeu quelconque. Après, ça a pas l'air pire que beaucoup de jeux qui sortent actuellement et qui sont censés par les influenceurs et les boutiquiers, où en fait il n'y a rien derrière. Là, ça a pas l'air si pire que ça. Ça a pas l'air bien, enfin, ça a l'air effectivement. Il y a quelques éléments intéressants, le côté un peu, je disais, roguelite en rigolant, mais finalement, il y a quand même un peu de ça, le côté où tu reviens au début, mais un peu plus fort. Alors, ça doit être méga laborieux, parce que s'il faut que tu refasses tout le parcours, ça doit être méga chiant. Un peu comme dans Time Stories, tu sais, quand tu refais les boucles alors que tu sais exactement tout ce qu'il y a à faire. Ça doit tirer en longueur et tout. J'aime bien le fait que, alors même si ça doit être inégal, mais tu vois, que la fin de partie aide la personnalité potentiellement, même si c'est peut-être plus rigolo à découvrir qu'à vraiment finir
qu'à
en
subir,
fait la
ouais.
partie.
Ouais, ouais.
Mais il y a des jeux comme ça, effectivement. Tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est quitte à faire des jeux de merde, faites-en au moins des mémorables.
Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est au-delà de l'intérêt ludique de la chose, c'est un jeu qui a l'air d'avoir une âme un petit peu, tu vois.
Ouais. Ouais. Et parce qu'il y a beaucoup de jeux médiocres ou merdiques qui sortent et qui n'ont aucune âme et qui n'ont pas d'identité et qui se ressemblent tous. Alors que là, au moins, même si c'est un talisman, bah, c'est pas un univers Heroic Fantasy de plus. Il y a un côté, effectivement, comme tu disais, Ben, un peu communautaire fans du groupe, où en plus tu te dis, je pense qu'ils l'ont sorti, tu vois, sans enjeu commercial derrière, où c'est plus, allez,
ouais, c'est
on
un
a
truc
une communauté,
pour se faire kiffer, quoi.
On va se faire ça en convention et tout, ça va être cool. Et du coup, la démarche éditoriale et de création derrière, c'est presque un produit dérivé du groupe, tu vois.
Ah oui, bah carrément, oui.
Et du coup, ça a pas toute la saloperie un peu éditoriale qu'il y a aujourd'hui dans pas mal d'éditeurs qui sortent des trucs pourris, mais pour les vendre. Du coup, la démarche, moi, je la trouve assez cool. L'univers aussi, après, bon, voilà, faut être sensible à l'univers. J'imagine qu'effectivement, si t'es un fan du groupe, bah, t'y es d'autant plus sensible, mais ça fait partie de ces jeux où, bah, encore une fois, quitte à sortir un truc moyen ou médiocre ou quelconque, bah, faites-en un qui a une identité, et au moins, on s'en souviendra au moins pour ça, quoi. Alors qu'en fait, la plupart des gens, on s'en souvient pas, ni pour leur game design, ni pour leur identité visuelle ou univers. Alors que là, au moins, il a ça. J'avais joué à Let's Dig for Treasure. Tu sais, c'est ceux qui ont fait Let's Summon Demon aussi,
qui ont fait ça.
Et qui ont un univers visuel trop cool, qui fait un peu Martine chez les morts-vivants. Et où, pareil, dans Let's Dig for Treasure, c'est un stop ou encore à la con, comme t'en as vu 500. Mais en fait, c'est très rigolo à découvrir parce qu'il y a des cartes qui sont complètement connes. Et où t'es là et tu regardes et putain, ils ont fait des cartes rigolotes, quoi. Alors le jeu est un peu quelconque, mais au moins, tu te souviens des cartes rigolotes lors de la découverte, quoi. Donc, ouais.
Ouais, parce que c'est un produit dérivé, mais tu vois, c'est pas un produit dérivé dans le sens où ils ont quand même cherché à s'inspirer de.
Ouais, et puis à thématiser leurs cartes et tout.
Ouais, c'est ça. Non, mais. Ouais, ils ont pas pris le truc du produit dérivé qui est juste effectivement un Monopoly ou un jeu de quiz ou un truc à la con. Et en même temps, c'est pas juste une pompe d'un jeu, il y a une vraie identité. Une vraie identité qui est injectée dedans, donc je pense qu'il y a un équilibre assez intéressant.
Ouais, tout à fait.
Par rapport aux descriptions et aux avis qu'on a pu lire, ouais.
Moi, justement, c'est un peu pour ça que je l'ai sélectionné. Alors, c'est peut-être du coup le
nanar. Meilleur nanar.
Ouais, voilà. Ou le moins nul, je sais pas comment on devrait le formuler. Mais en termes de game design, c'est peut-être le moins nul, même si on est d'accord, il est pas exceptionnel. Mais c'est plus le côté bizarre du nanar qui ressort, tu vois. Et comme dit, le mélange, l'univers d'Insane Claude Possy est vraiment très bizarre, quoi. Il y a vraiment ce côté, j'aimais bien comme il disait, à la fois philosophie bizarre, gnostique, je sais pas quoi, là.
Ah, ouais.
Et en même temps, tu vois, quand t'as un truc où t'as à la fois Détroit et genre le Shangri-La, tu vois. Tu sais, tu dis, mais c'est trop bizarre. Tu sais, tu commences, t'es en mode ambiance hip-hop et tout, puis après, ça devient dans des trucs dark, chelou, tu vois. Et à la fin, ça part en transcendance bizarre.
Il y a plein, effectivement, tu vois, quand tu penses à Ghost Dog ou quoi, il y a une certaine spiritualité qui est liée au rap et tout, et aussi à tout ce qui est aujourd'hui l'abstract hip-hop ou le cloud rap ou des trucs comme ça qui sont des trucs assez vaporeux. Alors, c'est plus actuel que dans les années 90, je pense que c'est plus. Ou les années 2000, mais tout ce qui est All Sweatshirt et tout, t'as des grosses ambiances ultra brumeuses et où tu vois de la spiritualité là-dedans et tout. Alors, pas forcément dans les lyrics et compagnie, mais où ça te fait un peu voyager, quoi, même si tu prends pas de substance, quoi.
Ouais, mais là, il y a un côté aussi absurde qui est recherché,
bien sûr.
Tu vois.
Ouais, ouais.
Donc, ça donne un côté un peu psychédélique, je pense. Tu vois, tu te retrouves avec Missy là qui est. Un personnage étrange du Nether Void, mais qui mange de la pizza et qui a une Cadillac, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc voilà, moi je suis vraiment assez fan de l'univers, et comme tu disais, ça va être mémorable aussi pour des éléments de gameplay. Moi, la carte qui dit tu passes ton tour pendant 10 minutes, ou alors tu vas mettre ta carte dans le freezer.
Ouais, ça,
ça a plus de personnalité que la plupart des jeux de cartes.
C'est des apports finalement ludiques qui sont intéressants, quoi.
Bon, après, faut pas déconner, hein, la plupart des cartes, à mon avis, elles sont beaucoup plus chiantes que ça.
Oui, bien sûr.
Je pense que, en vrai, c'est surtout l'univers, l'univers, le lore qu'il y a dedans qui est intéressant.
Mais c'est le genre de carte, faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que, tu vois, sinon ça, enfin, tu fais, enfin, c'est trop, c'est trop disruptif, sinon.
Ouais, c'est vrai.
Mais le fait que t'en aies une de temps en temps qui te catch et qui te fasse un effet de surprise, c'est cool, je trouve.
Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, Flavien, tu parlais de Let's Summon Demon aussi, qui a aussi une charte graphique qui est originale. Mais en fait, le truc, c'est que dans le jeu, tu vas juste regarder les graphismes, tu vas pas jouer avec, vraiment. Ce qui est important, c'est la mise en scène, les mécaniques, les dynamiques autour de la table. Que
alors,
ça
j'ai pas joué à Let's Summon Demon, mais dans Let's Dig for Treasure, il se passe quand même des trucs dans la dynamique du stop ou encore du fait de certaines cartes qui sont juste complètement connes, quoi.
J'ai bien compris que tu parlais.
Et où c'est lié par rapport à des éléments externes au jeu qui sont la propriété du jeu ou des trucs la, comme ça à la con, et où il se passe des trucs selon ça, en fait.
Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de Let's Summon Demon, parce que je savais que Let's Dig for Treasure, il y a peut-être des trucs plus intéressants.
Attention, c'est pas un grand jeu non plus.
Oui, mais pareil, ponctuellement, je trouvais ça aussi des fois dans des jeux comme, je sais pas, moi je pense à Hero Ika, Hero Immortal King.
D'accord.
Il y a un personnage, en fait, si tu joues la nuit, il a des caractéristiques différentes. Voilà.
Et puis tu vois, en termes d'identité, là, j'ai découvert là, cette semaine Surfosaurus Max, où c'est des dinos qui font du surf.
Ouais, c'est marrant.
Et c'est. Alors, en plus, le jeu est pas nul pour le coup. Moi, je l'ai pris vraiment pour son thème et son identité visuelle. Et le jeu est pas nul, vraiment. Tu fais des espèces de combinaisons de poker, mais en jouant que des cartes chez toi. Enfin, chacun joue des cartes devant chez soi, et à la fin, tu regardes ce qui donne parmi toutes ces cartes la meilleure combinaison, et les personnes qui ont participé à cette combinaison vont marquer des points. Et les visuels sont ouf. C'est-à-dire que c'est des dinosaures, alors avec les T-Rex, les tout petits bras et tout, sur des planches de surf. Et c'est incroyable. Et j'ai vu qu'il y a une version américaine qui s'appelle Combo et qui a aucune identité, alors que Surfosaurus Max, déjà par le nom, tu t'attends à un truc. Tu vois la boîte, tu t'attends à un truc. Et le mieux, c'est chaque personne, en fait, pour symboliser sa carte joueur ou joueuse, c'est une planche de surf, mais une carte surf. D'accord ? Donc t'as une carte où t'as une planche de surf dessinée. Et le jeton qui détermine la personne qui est première joueuse au tour X, c'est un grand T-Rex. Et quand tu le sors de la boîte, tu te dis putain, ils auraient au moins pu mettre un surf à ce T-Rex. Et en fait, quand tu poses le T-Rex sur ta carte, et ben en fait, tu le poses sur le surf. C'est incroyable en termes de mise en scène, c'est trop beau. Et là, tu te dis waouh, c'est trop bien. Et du coup, voilà, enfin, tu vois, et moi, il m'a attiré par cette identité visuelle, ce côté ultra psyché où t'as, je connais pas ces dinosaures, mais une espèce de tricératops sur un surf sur la vague de Hokusai qui est en train de dormir. Et tu te dis waouh, avec des couleurs incroyables, tu sais pas trop s'ils sont bicolores ou s'ils ont essayé de faire des ombres. Mais c'est mémorable. Et du coup, là, ben, tout ce que fait l'édition actuellement, c'est prendre, tu vois, ça, ils vont faire un jeu qui s'appelle Combo, où tu vas avoir des fleurs, quoi, et où tu vas, enfin, comme tous les jeux actuels, quoi. Et où s'il était sorti comme ça, jamais je m'y serais intéressé, quoi.
Ouais, je vois. Et donc, du coup, Quest for Shangri-La, pareil. Mais finalement, directement, ça me donne carrément envie d'aller creuser le lore de Insane Clown Posse.
Ouais, clairement. Je suis d'accord.
Je me rends compte que j'ai peut-être fait une erreur. Je crois que le jeu, en fait, n'est pas sorti en 2007, mais en 2006.
Okay.
Peut-être que j'avais... Bon, ça ne change pas grand-chose. Hein, on s'en fout.
Non, Talisman était quand même antérieur.
Ouais, alors par contre, Talisman, je trouve ça vraiment nul, hein, comme jeu.
En plus, en termes d'identité, visuel et tout, d'univers, vraiment, c'est le dungeon crawler de base.
C'est la même chose, mais en quelconque. Quoi. Ok, et ben voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, je vais aussi inviter hein, les auditeurs et auditrices à aller sur le billet pour aller regarder les petits visuels que je vous fournirai.
Est-ce qu'on a le droit d'aller sur Board Game Geek, nous, maintenant?
Ouais, si vous voulez faire la réaction en live ou...
Bah, comme tu veux.
Bon, on peut, hein. C'est Quest for Shangri-La. Ouais. Alors, Quest.
Moi, j'avais préparé ma recherche depuis bien avant. Là, j'appuie après. Okay. J'étais prêt.
La police de la couve est vraiment dégueu, par contre.
Ouais, c'est chargé, hein.
Ouais. C'est très chargé, très coloré. Oui.
C'est marrant le petit macaron Winner Underground Game of the Year.
Ah oui.
Je sais pas si c'est un prix qu'ils se sont auto-décernés, tu sais.
C'est vrai que par contre c'est 2 heures.
Ah oui, la partie, c'est Talisman. Hein.
Ouais, le matos c'est chargé, mais c'est. Ouais.
Je préférais qu'on ait des billets comme ça plutôt que les billets en euros qu'on a.
C'est vrai que les billets sont drôles. Et c'est marrant parce qu'entre les différentes cartes, billets et tout. T'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment une cohérence graphique entre le
ouais, par contre, mais... Oui. Il y a certains visuels qui me font penser, moi, à certaines tendances actuelles de la bande dessinée, que j'aime bien. Il y a Lisa Blumen que j'ai découvert récemment, et qui a ce côté...
dessin un peu...
Qu'on pourrait dire dessin moche, mais qui a un sens, en fait, vis-à-vis de l'esthétique proposée. Là, Missy, typiquement, ça pourrait être un personnage de Lisa Blumen, quoi. Et le sac, ouais, enfin, tu vois, ça a de l'identité visuellement, quoi. Moi, je préfère avoir un jeu comme ça qu'un... Alors, Pixies, il a une certaine identité visuelle, mais je sais pas, je regarde là derrière moi. Je sais pas, tu vois, Empire's End est joli, mais très classique aussi. Cubitos, bah, je sais pas, je te cite que des jeux qui ont quand même une certaine identité. J'ai que ça chez moi. Mais ouais, tu vois, quitte à choisir, je préfère un truc qui va me faire me dire, tiens, c'est pas fréquent qu'on voit des visuels comme ça. Même si techniquement le niveau est sans doute inférieur, mais on s'en fout en fait de la technique. Tu vois, c'est ce qui est important, c'est de ce que ça te fait ressentir. Tu vois. Et je suis toujours plus curieux de trucs comme ça que de trucs où t'as l'impression que tu pourrais mettre n'importe quel illustrateur ou illustratrice dessus, ça serait la même chose, quoi.
Mais par rapport au plateau, par contre, tu vois, Talisman, les trois zones sont vachement, enfin, tu les identifies bien.
Ouais.
Là, sur le plateau de The Quest of Shangri-La. Ah, t'as la marque de délimitation rouge entre Détroit et je sais plus comment ça s'appelle la zone, mais
la rivière de sang.
Ouais, la rivière de sang, on la voit bien, mais en fait entre les cases d'un niveau ou de l'autre, c'est, enfin, si tu regardes le plateau de loin, en fait.
Oui, c'est dur à voir.
C'est dur à identifier. Ouais. Je pense qu'il y a au niveau de l'édition, il y a des choses à faire.
Peut-être une réédition de ce jeu un jour.
Kickstarter.
Ouais, un Kickstarter, hein, écoute.
Ils l'ont fait pour Morton.
Morton, ouais.
Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis.
Yes.
Donc, encore une fois, donc on va inviter les gens à aller venir nous mettre des petits commentaires, parce que bon, la dernière fois, on n'a eu que 3 commentaires, c'est un peu triste. Vous pouvez aussi venir sur le Discord pour venir discuter avec nous de tout ça. Partagez l'émission sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous a fait marrer ou si ça vous a intrigué.
Mettez-nous en commentaire votre artiste ou votre collectif de rap préféré des années 90.
Ah ouais, carrément. D'horrorcore, si possible. On se retrouvera donc dans Nanar Ludique dans la prochaine fois qu'il y aura 5 mois, on verra quand est-ce que c'est.
5 mois ? Des années à 5 mois ?
Semaines. Qu'il y aura 5 semaines dans un mois.
5 mois dans un mois, putain, ça serait bien.
C'est beau ça. La semaine prochaine, donc, vous retrouverez un Sortons le grand jeu, donc avec moi et Cyrus.
Vous savez déjà le jeu ? Diplomatie. Je le dis à chaque fois.
Tu sais qu'on a failli faire diplomatie.
Talisman.
On a failli faire diplomatie, mais on parlera de Concordia.
Ah, c'est un jeu récent. C'est le plus récent que vous ayez fait avec Codenames.
Codenames est plus récent pour le coup.
Ouais, mais c'est parce que vous voulez enfin parler de vrai hand management.
C'est peut-être. Vrai ouais, c'est ça. C'est peut-être notre démarche. Tu verras bien en écoutant le. Walou. Eh ben écoutez, on se retrouve dans un prochain Nanar Ludique. Et donc d'ici là,
jouez bien. What is a juggalo? A dead body. Well, he ain't really dead, but he ain't like anybody that you've ever met before. He'll eat Monopoly and shit out Connect 4. What is a juggalo? What the fuck? Don't worry about whack. My shit. Just rap, motherfucker. What is a juggalo? He ain't a bitch boy. He walks through the hills and beats down a rich boy. Walks right in the house where you're having supper and dip his nuts in your soup. What is a juggalo? Well, he ain't a phony. He walk up and bust a nut in your macaroni and watch you sit there and finish up the last bit. 'Cause you're a stupid ass, dumb fucking idiot. What is a juggalo?